Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Sachez que vous pouvez remonter le temps comme nous si vous passez à Rambouillet dans les Yvelines. Oui, vous serez transporté en 1811 où l'Empire est à son apogée. Napoléon aimait y séjourner à Rambouillet à ce moment-là pour se reposer. Et puis, il offre aussi à l'empereur un lieu de retraite privilégié, cet endroit.
Et ce week-end, on va rejouer en costume des scènes de l'époque, des initiations à la danse et on va même prendre des cours de protocole.
On découvre donc avec la responsable du service culturel du château de Rambouillet. Bonjour Anne-Claire Nérol.
Oui, bonjour.
Est-ce que Napoléon s'est souvent rendu à Rambouillet?
Alors, on sait qu'en tout, il est venu environ 60 jours à Rambouillet. Alors nous, ça peut nous paraître pas beaucoup quand on le dit comme ça, mais étant donné la vie quand même assez mouvementée de l'empereur...
Oui, c'est vrai. Et quand il découvre le château, il semble s'y plaire d'entrée.
Oui, alors il récupère tout de suite le château qui était déjà inscrit dans la liste royale des résidences de Louis XVI. Il s'y plaît tout de suite et en témoigne d'ailleurs des grandes rénovations qu'il engage sur le château, dans le parc, à la bergerie, voilà, vraiment sur tout le domaine.
Et qu'est-ce qu'il y faisait au château? Il aimait se reposer pour justement s'extraire un petit peu de ses préoccupations parisiennes?
Oui, c'est exactement ça. En fait, comme ses prédécesseurs et puis tous les grands qui viendront après à Rambouillet, c'est vraiment un lieu qui est suffisamment éloigné de Paris pour pouvoir y vivre en simple particulier, profiter de la forêt, de la nature environnante. Et puis c'est quand même un beau pavillon de chasse qui a une grande histoire depuis le XIVe siècle.
Et c'est lui qui a voulu cette magnifique salle de bain que l'on peut voir aujourd'hui dans l'appartement de l'empereur.
Ah, exactement, il fallait qu'il se fasse aménager impérativement un bel appartement à la toute dernière mode du Premier Empire. Et on a conservé aujourd'hui encore cette belle salle de bain qui présente vraiment tout son état décoratif d'origine avec des magnifiques médaillons, notamment peints.
Anne-Claire Nérol, vous parlez de pavillon de chasse, bon, d'une certaine taille quand même, ce pavillon de chasse. Est-ce qu'il aimait chasser en forêt, Napoléon, à ce moment-là?
Alors, Napoléon n'est pas connu comme étant un grand chasseur, ni comme aimant ça vraiment beaucoup, mais dans les sources, on nous dit quand même, notamment son valet Constant qui a écrit ses mémoires, il nous dit quand même que Napoléon prenait plaisir à Rambouillet à chasser.
Oui, c'est vrai que plus récemment, Valéry Giscard d'Estaing chassait à Rambouillet, et c'est Chirac qui a suspendu les chasses à Rambouillet. Est-ce que vous savez à combien de temps le château de Rambouillet était de Paris à l'époque?
Il y avait pas de combien de temps pour y aller?
Il y avait pas d'autoroute.
Non.
Oui, on y mettait environ 2 heures.
Ah oui.
Et comment 2 heures environ.
Comment sont les appartements dehors de cette fameuse salle de bain?
Comment sont, pardon?
Les appartements de Napoléon, là où il vivait pendant qu'il restaurait le château.
Alors lui, il s'est vraiment installé dans l'ensemble du château, notamment dans les parties du XVIIIe siècle.
Ouais.
Et son appartement, lui, qui jouxtait justement ces beaux appartements du XVIIIe, ont été restaurés vraiment à la toute dernière mode, avec des magnifiques tentures sur les murs, du mobilier tout beau, tout neuf, voilà.
Alors qu'est-ce que l'on va vivre ce week-end à Rambouillet? On nous parle de costumes, d'initiation à la danse, initiation au protocole.
Oui. Il y a beaucoup de choses. Alors on va ouvrir, nous, à Rambouillet, une petite fenêtre sur la vie intime de Napoléon. Hein. C'est-à-dire qu'on se place pas dans des résidences officielles où le faste est de mise. Hein. Là, c'est vraiment le côté intime, privé, familial de la résidence. Et quand les visiteurs vont pénétrer à l'intérieur, eh bien, ils vont vraiment découvrir des scènes de vie quotidienne, des salons de dames. Ils vont participer à l'initiation de danse donnée par le maître à danser à l'empereur. Ils vont découvrir dans la salle de bain un homme qui est en train de se préparer. Avec un véritable échange avec près de 150 reconstitueurs costumés à l'intérieur du château.
Anne-Claire Nérol, on fait quoi dans un salon de dames?
Ah, on brode, on papote.
C'est des pointes dentelles.
On discute des dernières anecdotes de la cour. On fait des jeux aussi, hein, le pharaon, le trac, etc.
C'est quoi ces jeux?
C'est des jeux d'époque?
Ah, c'est des jeux d'époque qui étaient déjà très prisés à l'époque de Louis XVI, hein, des jeux d'argent, des jeux de cartes, des jeux de dominos, hein, pour parler avec des termes plus contemporains, voilà des jeux anciens auxquels on continue à adorer à jouer, hein, comme on le faisait dans les salons des rois à l'époque.
Est-ce qu'il venait en famille à Rambouillet, Napoléon, ou il y venait seul?
Bah, c'est vraiment l'objectif de Rambouillet, c'est de pouvoir venir ici et d'y venir et de profiter de sa famille. Donc oui, il y vient avec sa famille, il y vient d'abord avec sa première femme et leurs enfants, enfin leurs beaux-enfants, et puis ensuite il vient avec l'impératrice Marie-Louise.
Vous savez quoi, Anne-Claire Nérol, ça fait envie votre week-end d'animation historique.
Ah bah, j'espère bien.
Demain et dimanche au château de Rambouillet.
Merci beaucoup de nous en avoir parlé.
Et à la bergerie nationale aussi.
C'est toute la ville de Rambouillet qui va vivre...
Exactement. Là, on transporte les gens absolument partout dans Rambouillet, que ce soit au Palais du Roi de Rome ou à la Bergerie Nationale.
Ça va être l'époque napoléonienne tout ce week-end à Rambouillet. Merci beaucoup, Anne-Claire Nérol.
Merci à vous.
Bon week-end, au revoir.
Une heure en France.
Alors, comme Richard, est-ce que vous connaissez le porc mongaliza? C'est une race hongroise, vous l'avez dit, Denis, une race de cochon en voie de disparition, appelée également porc laineux. Des éleveurs français se sont pris de passion pour ce cochon assez proche du sanglier.
On dit que la viande a un goût persillé extraordinaire, qu'elle est riche en oméga 3, pauvre en cholestérol, et ça, ça peut en intéresser quelques-uns.
Du coup, on est en visite chez un couple d'Isérois de La Chapelle du Bar, entre Chambéry et Grenoble, chez Sylvie et Michel Guidet. Bonjour Michel.
Bonjour.
À quoi il ressemble ce cochon mongaliza par rapport au cochon rose que l'on connaît?
Il a un peu un loup crasta, il a des poils assez longs.
Un loup crasta, vous avez dit?
Oui, c'est tout à fait ça. Assez bouclé, nonchalant. C'est pour ça que ça m'a plu d'ailleurs, au démarrage. Et il est assez rustique, il vit dans des conditions difficiles, il ne craint ni trop ni le chaud, ni les hyper chauds comme on a eu cet été. Ni le froid l'hiver. Non, c'est confortable comme animal.
Mais comment vous avez découvert cette race de cochon, Michel?
En fait, j'avais un restaurant. Ce que je pouvais acheter dans le commerce ne me convenait pas. Comme j'avais un bout de terrain derrière chez moi, enfin un bout de terrain un peu grand, j'avais un hectare et plus, je me suis dit pourquoi pas faire du cochon. Donc j'ai commencé par des cochons roses. Et au premier gros coup de froid d'hiver, bon, j'en ai eu un qui était de pneumonie, ça n'a pas marché. J'ai dit il faut changer de système. Donc je suis allé chercher sur internet des cochons issus de zones rudes quoi en fait, et donc j'ai trouvé ça en Suisse. Enfin j'ai trouvé mes premiers reproducteurs en Suisse. Je suis allé chercher les premiers à Lugano, dans le Tessin. J'ai ramené ça en 2004 et il se trouve que ça s'est très bien acclimaté. Ça reproduit doucement mais sûrement. La croissance est assez lente, même très lente pour certains, je pense qu'ils n'auraient pas patience. Et pourtant, c'est bien acclimaté au coin. Quoi.
Alors, vous êtes un couple d'éleveurs avec Sylvie, que voici. C'est Véronique Puyot de France Bleu Isère qui vous a rencontré il y a quelques jours.
Ils sont gentils, hyper affectueux, très attachants. Ils nous reconnaissent, ils reconnaissent notre voix, ils reconnaissent même le bruit de nos voitures, ils identifient nos véhicules. C'est assez impressionnant. Ils gardent leur caractère, c'est pas non plus des peluches, on n'en fait pas ce qu'on veut. Voilà, par exemple, tout ça pour un gland, c'est magnifique. Ils viennent, ils cherchent des câlins, ils veulent se faire gratouiller pendant des heures.
Michel, Frédéric a eu peur, elle a poussé un cri elle aussi. Il paraît qu'il y en a un qui s'appelle Gérard et qui répond à son nom.
Exact. Ben Gérard, le problème de ces animaux, c'est qu'on l'a élevé au biberon parce que sa mère n'avait pas de lait, donc fils unique mal élevé. On l'a élevé. Depuis l'an passé, je vais l'envoyer à l'abattoir au mois de novembre et puis il arrive le mois de novembre cette année, ben Gérard est toujours là parce qu'il est trop sympa et on n'arrive pas à le tuer.
Ben, c'est ce que j'allais vous demander. Ça. Quand on s'attache aux animaux comme ça, ça doit être compliqué malgré tout, à un moment.
Oui, pour certains.
Pour Gérard,
côté,
en tout cas.
La raison économique. Pour Gérard, c'est difficile. Ouais. Mais pour les autres, il faut bien se rendre compte que la mort des uns donne à manger aux autres. Quoi.
Bien sûr. Mais vous êtes très attaché à Boulette aussi, qui a fait des siennes d'ailleurs la semaine dernière.
Non, faut pas parler de ça. Alors Boulette est partie effectivement chez la sœur du maire manger des croquettes pour chat. Donc c'était un dépôt de plainte à la gendarmerie. Pour violation de domicile, vol de croquettes et compagnie. Ça fait partie.
C'est tout oublié. On
n'a rien dit.
On n'en parle pas.
On n'en parle pas, mais tout le monde a entendu quoi. Enfin bon, c'est pas grave.
Trop
non,
tard.
Boulette, c'est moi, c'est un peu la star. C'est quand on a des médias qui viennent. On l'appelle, elle vient, elle fait son cinéma et c'est pratique d'avoir des animaux comme ça. Donc celle-là n'ira vraisemblablement pas à l'abattoir.
Oui, j'allais dire Boulette en novembre non plus. Est-ce que ce sont des animaux intelligents, ces cochons mongaliza?
Dans une certaine mesure, ça peut parfois être très court, mais dans une certaine mesure, ça comprend, ça connaît son nom, ça connaît son environnement, ça connaît les gens.
d'un autre côté, il faut pas leur en demander plus, quoi.
En tout cas.
Mais pour un animal de ferme, c'est sympa. Mmh. C'est plus sympa qu'une vache ou qu'un mouton, par exemple.
Le cochon mongalitza, élevé en Isère, chez Sylvie et Michel Guidet, à la Chapelle du Bar, près d'Alvar-les-Bains, dans le massif de Belledonne.
Voilà. Et il paraît que c'est délicieux.
C'est une collaboration avec un gros charcutier lyonnais qui a fait le max pour développer cet élevage.
Parce que c'est très bon quand même, le cochon mongalitza.
Pardon ?
C'est très très bon aussi, il faut le dire, le cochon mongalitza, Michel.
Le goût est inimitable.
Voilà.
C'est très persillé, c'est un cochon qui se prépare sans... Il n'y a pas besoin de sauce, de préparation compliquée. Vous le mettez grillé avec du sel, du poivre, ça suffit. Il y a une excellente jutosité. Un vrai lard qui est très pauvre en acides gras saturés, donc riche en acides gras saturés, pauvre en cholestérol, à tel point que dans les pays dont il est originaire, à savoir la Hongrie, la Serbie... toute la zone des Carpates, il est considéré comme un médicament prévenant les maladies cardiovasculaires.
Le lard cochon.
Il ne faut pas dire exagéré, mais bon.
Mais quand même, c'est bon d'en manger. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet animal. Donc, on en sait plus grâce à vous aujourd'hui, Michel.
Ok. Merci.
Merci, bon week-end à vous en Isère.
Allez, bon
Merci
week-end.
Beaucoup. Au revoir.
Une heure en France. Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Que mangent les invités du chef de l'État quand ils sont conviés à l'Élysée ? Eh bien, la réponse est à la bibliothèque municipale de Dijon qui vient de s'enrichir de plus d'un millier de menus confiés par le chef de la cuisine de l'Élysée, Guillaume Gomez.
Et c'est ainsi que l'on peut comparer les menus de l'Élysée depuis le président Émile Loubet au début du 20e, jusqu'à aujourd'hui avec Emmanuel Macron, en passant par... Poincaré, Lebrun, Auriol, Coty, De Gaulle ou Mitterrand.
On parcourt l'expo à la table du président, un siècle de menus, avec la conservatrice en charge des collections patrimoniales à Dijon. Bonjour Caroline Poulain.
Bonjour.
Est-ce que les menus varient beaucoup d'un siècle à l'autre ? Est-ce que l'on mange différemment aujourd'hui ?
Oui, absolument. Les menus changent dans leur forme et aussi dans le fond de ce que l'on mange. D'abord, on mange beaucoup moins. À la fin du 19e siècle, on mange encore une quinzaine de plats, alors qu'aujourd'hui, l'ordonnancement des plats ressemble à ce que vous pouvez manger à la maison, entrée, plat, dessert, tout simplement.
Et est-ce qu'on reconnaît aussi la patte des différents chefs qui ont exercé à l'Élysée par le biais de leurs menus ?
Alors oui, certains présidents sont connus pour leur appétence pour la gastronomie et certains ont fait évoluer, notamment Valéry Giscard d'Estaing qui a allégé la cuisine de l'Élysée, allégé en sauce, allégé en cuisson. Et il a fait intervenir des chefs importants de l'époque, les chefs de la nouvelle cuisine, pour que l'Élysée s'adapte au goût du temps.
On a regardé avec Frédéric ce matin, à l'heure du café, le menu servi par Émile Loubet au roi d'Italie en 1903, huîtres Victoria, paupiettes de sole, agneau, poularde et sorbet. Effectivement, on n'imagine pas ça aujourd'hui parce qu'on a regardé par exemple Emmanuel Macron qui a servi au prince héritier du Japon il y a un mois. Une volaille de Bresse avec un Pouligny Montrachet. C'est très sobre, finalement, maintenant.
Alors, très sobre. Il faut quand même préciser que ce sont des mets très nobles. Hein. La volaille de Bresse, ça reste un produit typique de la gastronomie française. Il y avait aussi une purée de pommes de terre. Mais une purée de pommes de terre, Joël Robuchon, puisque c'est un chef qui venait juste de mourir à l'époque où ce menu a été servi. Et donc, cette purée a été servie en hommage à ce grand chef.
D'accord.
Oui, il y a toujours des symboles aussi, on se doute. Caroline Poulain, les réceptions avec des chefs d'État étrangers, est-ce qu'on s'adapte à leur goût, aux mecs qu'ils trouvent dans leur pays et on les revisite à la sauce française ?
Alors, on s'adapte déjà à leur goût. Hein. La cuisine de l'Élysée ne fait pas les menus toute seule. Elle travaille avec les diplomates et puis avec l'intendance. Donc, on connaît les goûts et les dégoûts des chefs d'État. On connaît leurs allergies. On connaît les interdits alimentaires de leur religion. Là, donc, vraiment, là, on s'adapte. Et puis, on va parfois faire un clin d'œil à la cuisine du pays de l'hôte étranger. Mais on va cuisiner toujours la haute gastronomie française. Mais on pourra faire un clin d'œil, par exemple, avec... de l'agneau pour des chefs d'État du Moyen-Orient, parce qu'on sait qu'ils aiment ce mets, mais travailler à la française.
Si les menus du chef de l'Élysée sont arrivés chez vous, c'est pas complètement par hasard. Vous avez un fond de menus, si j'ose dire, assez impressionnant, des milliers et des milliers. Les plus anciens datent de quand ?
Alors, les plus tout premier date de 1811 et c'est l'un des premiers au monde puisque le tout premier menu que l'on conserve au monde date de 1803. Hein, c'est un support, le menu, qui naît au tout début du 19e siècle et on a aujourd'hui 15 000 menus entre 1811 et 2018 puisque c'est une collection qui s'enrichit en continu et c'est l'une des plus grandes en France.
Caroline Poulain, sur ces menus, il n'y a pas que l'Élysée, il y avait aussi des dîners à Versailles, sur le porte-avions Charles de Gaulle et puis il faut le dire que c'est toujours très travaillé, il y a des dessins sur les menus, c'est pas un carton tout simple.
Absolument. La plupart des réceptions sont servies à l'Élysée, mais on utilise les palais de la République et puis le président se déplace. Donc il peut être reçu dans les préfectures, à l'étranger ou comme vous le disiez, sur un porte-avions. Et les menus sont de très jolies pièces, surtout les plus anciennes, qui étaient travaillées par des grands peintres de l'époque avec des illustrations créées pour l'occasion. Aujourd'hui, le menu reste très joli, mais beaucoup plus sobre. On a un beau papier blanc avec une dorure aux armes de la République.
Vous avez un menu sous les yeux, Caroline Poulain, pour nous mettre l'eau à la bouche?
Ah oui, bien sûr, j'en ai donc 15 000 sous les yeux.
Oui, un seul, s'il vous plaît.
Dans l'exposition, vous pourrez en voir une centaine. Et il y en a un que j'aime beaucoup qui date de 1908, qui a été servi au roi de Suède, Gustave V, et qui est vraiment un menu typique de cette époque de la grande cuisine du début du XXe siècle, avec de très nombreux plats. Donc on commence avec une crème d'écrevisse et un consommé à la Rossini. Mmh. On continue avec des croustades à la Sévigné, des filets de carpe à la Chambord, une selle d'agneau, des noisettes de chevreuil, des barquettes d'ortolan, deux sorbets, un dindon au truffet, des langoustes Bellevue, une salade, des cardons à la parisienne, des champignons de rosée et une glace Gismonda pour finir.
Vous pourriez manger tout ça, vous ?
Je ne pense pas, c'est des petites portions pour goûter, mais je rêverais de goûter cette cuisine de l'époque parce qu'on ne cuisine pas du tout au début du XXe siècle par rapport à aujourd'hui. Donc ça serait très intéressant de recréer à l'identique ces plats pour voir si notre palais s'y habituerait ou
bien
pas.
Bien sûr.
Vous rêvez de tester ces plats. C'est vous qui nous avez fait rêver aujourd'hui avec ces menus à Dijon, Caroline Poulain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la table du président, un siècle de menus à la bibliothèque de Dijon jusqu'au 5 janvier. Pour le plaisir, Frédéric, on va se replonger un instant dans les cuisines de l'Élysée avec le film Les Saveurs du Palais.
Ah oui.
Catherine Fraud, la cuisinière, avec le président.
Vous êtes ? Je suis votre cuisinière, monsieur le président.
J'ai besoin de retrouver le goût des choses.
Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne.